Vous écoutez RTL.
14h04 sur RTL, on retrouve les amis de la curiosité. Bonjour.
Bonjour Christelle.
Bonjour Christelle, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue les curieux. C'est parti pour une heure de découverte de secrets de coulisses avec Anaïs. Bonjour Anaïs Bouton.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Science, histoire, saga musicale, grand destin, aventure, nature, bah, tous ces thèmes nous passionnent. Et tout à l'heure, vers 14h30, c'est une star de la BD qu'on va découvrir. C'est Babar, créé par un Français et aujourd'hui connu dans le monde entier. Et vous verrez que tout commence par un safari et par un coup de fusil.
Mais d'abord sur RTL, on vous fait entrer dans les coulisses de l'info.
RTL.
RTL Matin, Yves Calvi. Oh.
Jérôme Chapuis, bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous, 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 tous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue.
La curiosité est un vilain défaut.
Toute la qualité.
Laurent Delahousse qui fait un peu de house music, pourquoi pas, ça lui va bien. Bonjour Tony Cousin.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef de la matinale sur RTL depuis 5 ans. Bonjour François Dufour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef de Mon Quotidien et Mon Petit Quotidien.
Ah, je peux dire un
petit
mot.
C'est deux journaux qui sont destinés aux jeunes lecteurs. Bah oui, c'est votre émission. Hein.
Je viens d'abonner mes filles pour Noël parce que c'est vraiment deux petits journaux pour les enfants extrêmement bien foutus.
Et c'est vrai, c'est pour ça qu'on vous a invité. Entre autres, François Dufour. Alors, pourquoi vous êtes là tous les deux aujourd'hui? Parce qu'il y a eu ces attaques, ces critiques et ces attaques parfois physiques contre les journalistes qui se multiplient depuis, alors ça existe depuis de longs mois, mais particulièrement depuis le début du mouvement de la crise des Gilets jaunes. On a envie de faire un peu de pédagogie. Tony, je commence avec vous, on va rentrer un peu dans les coulisses de la matinale, ça commence forcément au milieu de la nuit.
Oui, ça commence très tôt.
Vous arrivez à quelle heure?
2h30.
D'accord.
2h30.
Et vous faites quoi?
Il faut imaginer que là, c'est le grand silence dans les couloirs. Mmh. Une rédaction, ça vit en principe. Mmh. Là, il y a quelques lumières qui sont éteintes, une machine à café qui commence à fonctionner. Et là, on est 6 ou 7 personnes, c'est-à-dire 2 rédacteurs en chef, quelques présentateurs de journaux et 1 ou 2 techniciens. Et donc, on arrive, on prend ses marques, on allume nos ordinateurs et là on commence à regarder les dépêches de la nuit qui sont tombées. On commence aussi à feuilleter les journaux qui arrivent très tôt, la presse papier, la presse quotidienne, autour de 3h du mat. Et puis
il y a aussi des reportages qui sont prêts.
Et voilà, c'est ça. On écoute en fait tous les reportages qui ont été laissés la veille au soir. Reportages qui viennent donc des services, des reporters, des correspondants régionaux, des correspondants à l'étranger. Voilà.
Donc là, il est 14h07 sur RTL. Vous êtes réveillé à 1h30.
Exactement.
Ça d'accord. Très bien.
Bon, bah, merci d'être là. puisqu'on est dans les horaires, 3h45, pétante. Il y a un premier rendez-vous.
Ah oui, c'est fondamental. C'est ça s'appelle la conférence de rédaction. Mmh. 2 rédacteurs en chef, 3 présentateurs. Il faut savoir qu'on a des journaux toutes les demi-heures sur RTL, de 5h jusqu'à 9h. Et donc, on discute de l'actualité du jour et on va établir finalement une grille. C'est-à-dire qu'on va remplir les différents journaux. On a un timing pour chaque journal, 10 minutes à 7h, par exemple, 6 minutes à 7h30, 12 minutes à 8h. Et là, donc, à partir des reportages qu'on nous a laissés la veille et par rapport à l'actualité du jour et que celle qu'on peut construire le matin même, on va remplir les journaux avec les différents reportages pour construire une grille de matinale.
Alors, François Dufour, la conférence de rédaction, c'est le point commun de tous les médias. Elle est forcément ouverte à tous les journalistes?
Non, pas forcément. Dans beaucoup de médias, elle est ouverte à tout le monde. Parfois, c'est uniquement les rédacteurs en chef et les chefs de service, l'idée étant de choisir sur quoi on va insister.
Donc qu'est-ce qui se décide en conférence de rédaction?
L'actualité, c'est un grand mot. Si vous êtes le rédacteur en chef de Lyon Républicaine, vous n'allez pas forcément choisir de mettre en avant le même sujet que si vous êtes le Toronto Star au Canada.
C'est la hiérarchie de l'info qui se joue à ce moment-là.
C'est pas que la hiérarchie de l'info, c'est ce qu'on veut dire à son public. Alors, je sais qu'on va en parler après, mais qu'est-ce qu'on veut dire à son public? Ce qu'on trouve nous important, ce que le public attend et ce en quoi il est intéressé.
Alors, Tony Cousin, quand un événement comme l'attentat de Strasbourg intervient le soir, qui prépare la matinale? Est-ce que vous avez dû tout changer hier?
Oui, on a changé beaucoup de choses, évidemment, hier soir. Il faut savoir qu'il y a différentes équipes. Hein. Il y a l'équipe de la journée, l'équipe de la rédaction en chef du soir, le matin. Et donc, hier soir, il y a eu un gros travail de préparation. Alors, c'est souvent compliqué, d'ailleurs, de préparer ce genre de matinale parce qu'en même temps qu'il faut préparer l'émission du lendemain, il faut aussi assurer l'antenne. Et hier soir, il fallait nourrir aussi l'antenne. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois se projeter sur le lendemain, et voilà. Donc ça nous a obligés aussi ce matin à prendre nous-mêmes nos responsabilités, en quelque sorte, de supprimer certaines chroniques qui étaient prévues, d'appeler des personnes qui n'étaient pas prévenues encore hier soir, de changer certains invités. Bon, tout ça, on est obligé de s'adapter, y compris pendant la nuit.
Et puis vérifie tout ce qui se dit à l'antenne, parce que
c'est un gros boulot.
Alors justement,
il suffit pas de recopier ce que disent un tel ou un tel ou Internet, etc. Le job numéro un du journaliste, c'est quand même de vérifier, parce que sinon on dit une connerie ou on dit peut-être non.
Et elle est multipliée en plus.
Alors François Dufour, justement, les fake news, les fausses infos et le travail de vérification qui est la base du métier des journalistes, c'est l'un des 100 mots du journaliste que vous publiez aux éditions Que sais-je. On va se plonger justement dans ce travail au quotidien, et peut-être essayer de comprendre qui se cache parfois derrière ces infox, ces fausses infos. A tout de suite sur RTL.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Allez, s'il vous plaît.
5, 4, 3, 2, 1.
Top générique.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonsoir. Bienvenue en Antenne 3 Bretagne. Le cheikh Aziz Tarek s'est rendu de la Mecque à Baalbek et en ce moment discute les problèmes intrinsèques à l'ambassade grecque au Koweït.
Sur RTL.
Sandek.
C'était les inconnus. Allez, on est toujours avec Tony Cousin, rédacteur en chef de la matinale d'RTL, et François Dufour, rédacteur en chef de Mon Quotidien et Mon Petit Quotidien. Et on vous emmène dans les coulisses de l'info. Alors, vérifier l'info, c'est la base de notre métier, et c'est de plus en plus important, Tony Cousin. Pourquoi ?
Ah oui, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des nouveaux canaux de diffusion. On parle beaucoup des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, en fait, alors il faut pas noircir le trait, il y a du bon sur Internet,
bien sûr.
Je suis pas là pour dire que Internet c'est nul. En revanche, Twitter, Facebook, tous ces réseaux sociaux sont devenus des espaces de liberté totale où chacun peut donner son avis sur tout, où chacun s'autorise à parler sur tout. Et c'est souvent devenu un lieu finalement d'exutoire. C'est un espace où...
Alors ça, c'est sur
rien.
Les avis. Bon, pourquoi pas, mais sur les infos elles-mêmes. Il y a des fausses infos qui circulent.
Oui, chacun s'autorise à poster des choses sans avoir vérifié. Le problème, c'est que c'est partagé, repartagé.
Mais quelles sont vos sources,
diffusé. Nous, c'est à la fois première source qu'on utilise, ce sont les journalistes. Les journalistes de la rédaction qui, tous les jours, sont au contact avec leurs interlocuteurs et font remonter des infos. C'est le correspondant régional qui lit quelque chose sur son quotidien régional et qui va vérifier l'information derrière. C'est l'agence France Presse aussi qui annonce des choses et qu'on peut reprendre derrière. C'est la presse qu'on lit le matin et qui est elle-même une source. Voilà, il y a une pluralité de sources.
François Dufour, on vient de le voir.
Voilà, c'est un point crucial, avec, Thomas, ce que vous voulez dire.
Avec la crise des Gilets jaunes.
Je souligne, c'est qu'il y a les faits, il y a les infos, et puis il y a les opinions.
Mais oui, bien sûr.
Et le problème, c'est que vous avez maintenant beaucoup de journalistes qui font de l'opinionnisme, enfin les éditorialistes, etc., et qui au fond sont plus journalistes. La réponse à votre question, c'est que le journalisme, c'est les faits, et que les faits sont vérifiés.
Ouais.
Le reste, chacun des opinions sur ceci ou cela, et puis il y a certains journalistes qui ont des sortes de deuxième job ou d'autres jobs qui sont des opinionnistes, mais il ne faut pas les prendre pour des journalistes.
Ouais. Et puis je voudrais qu'on parle aussi de alors ce mot, puisqu'on est dans les mots du journalisme, c'est ce que le livre que vous publiez chez Que sais-je, notamment ce mot fake news. Alors on a une traduction française maintenant, c'est infox, on pourrait dire fausse nouvelle tout simplement. C'est encore sorti là, cette nuit, dans la foulée de l'attentat de Strasbourg. Bon, il y a une vague de fake news sur le thème, cet attentat, il ne vient pas là par hasard, c'est pour mettre fin au mouvement des Gilets jaunes, etc. Est-ce qu'on peut savoir, François Dufour ?
Ce n'est pas des news, ça, c'est des opinions bidons.
Ça se transmet. Alors je vais m'expliquer. C'est perçu par certains citoyens comme une information, vous voyez ce que je veux dire, ceux qui vont s'informer via leur Facebook, recevoir sur leur fil Facebook ces opinions, et ils vont penser que c'est vrai. Comment on lutte contre ça?
Il faut dire aux citoyens, parce que vous parlez aussi, qu'il faut s'informer auprès des médias, et que les médias payent des journalistes à faire du travail de vérification, et que le reste, c'est de l'opinion, mais ça vaut pas plus que l'opinion au café.
Denis Cousin, une dépêche de l'AFP, par exemple. Est-ce que vous la vérifiez, vous, avant de la donner à l'antenne ?
Alors, il faut différencier différentes... Il y a différentes dépêches. Vous avez, juste avant le journal de 7 heures, par exemple, une dépêche AFP qui dit, j'en sais rien, Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20 heures, avec, entre parenthèses, puisque l'AFP source les informations avec, entre parenthèses, Élysée. Vous pouvez la reprendre à votre compte.
Mais vous savez, il y a un truc, par rapport à Strasbourg, il y a quelque chose... J'ai beaucoup écouté la radio, évidemment, comme tout le monde ce matin, hier soir. Et alors, on entend, il était dans l'hypercentre. Et quand vous connaissez Strasbourg, c'est une ville française, mais il n'y a pas d'hypercentre, c'est pas une mégalopole. Et je me suis dit, pourquoi ce terme est repris de radio en radio, de télé en télé ? Est-ce que il y a une...
Est-ce que c'est parce qu'il était dans une dépêche ?
C'est un cas qu'on a vu. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, clairement, les dépêches aident largement les présentateurs à faire leur lancement. Voilà. Donc, après, nous, on peut enrichir avec, par exemple, cette nuit, la nuit dernière, on avait deux correspondants sur place, donc qui faisaient remonter des informations et qui nous permettent, nous, d'enrichir, de donner de la chair et du corps à la dépêche qui est brute et souvent institutionnelle et un peu abstraite, mais la dépêche peut servir de base. Effectivement, de base.
D'accord. Des journalistes trop proches des pouvoirs économiques et politiques. Alors ça, c'est une critique qu'on entend souvent. Est-ce qu'elle est justifiée ? Réponse à venir sur RTL.
RTL. En Belgique, suite à une coupure de courant dans un supermarché, des centaines de clients sont restés bloqués pendant 4 heures sur un escalator.
La curiosité est un vilain défaut.
Je te dis que j'ai pas de retour. Mais je m'en fous qu'on soit à l'antenne. J'ai pas de retour, je parle pas.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Le JT nul avec Bruno Carrette et le Palmacho qui s'amuse à présenter un JT. Voilà, il faut rire de l'info, évidemment. Il faut aussi faire un peu de pédagogie. Tiens, d'ailleurs, on fait un coucou aux étudiants qui sont en première année d'école de journalisme à Rabat, au Maroc, et à leur prof Myriam Ezakraji qui nous a envoyé un message, je ne sais pas si c'est sur Twitter ou Facebook, sur Twitter, pour nous dire qu'ils nous écoutaient. Donc bravo à vous, merci d'être à l'écoute. On fait de la pédagogie autour de l'information parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, les journalistes sont régulièrement critiqués et c'est encore plus fort depuis le début de la crise des Gilets jaunes. Avec nous toujours Tony Cousin, rédacteur en chef de la matinale d'RTL, et François Dufour, rédacteur en chef des journaux pour enfants, Mon Quotidien et Mon Petit Quotidien. Il faut accepter certaines critiques qui sont faites aux journalistes, notamment peut-être sur la partialité. Alors je vais commencer avec ça, parce que c'est très souvent ce qu'on entend là depuis le début. Certains médias ont du mal à travailler sur la crise des Gilets jaunes, on leur reproche d'être partiaux. François Dufour.
Ils ont raison, le journaliste doit être neutre et objectif, il ne doit pas être partial. S'il est partial, il est engagé et il fait un autre métier qui n'est pas le métier de journaliste.
Ouais. Mais parfois, les critiques sont injustifiées. Tony Cousin, est-ce que vous sentez que la rédaction RTL est pro ou anti-Gilets jaunes ?
Je crois pas.
Comment vous faites pour éviter ça ?
On n'est pas là pour donner notre avis le matin, on peut avoir ses sensibilités. Hein. Nous, on s'engueule d'ailleurs à la conf de rédaction à 3h45, parfois ça dure 3 quarts d'heure, parfois ça dure une heure, hein. On n'est pas d'accord sur tel ou tel sujet, mais enfin on n'est pas là pour dire si on est d'accord ou pas. Je note sur la crise des Gilets jaunes qu'on n'a pas attendu cette crise pour faire des reportages sur la fracture sociale, la fracture numérique, les déserts médicaux, etc. Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, on fait notre boulot, c'est-à-dire que voilà ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, on diffuse le son. On diffuse aussi des réactions de Gilets jaunes. On a eu deux Gilets jaunes invités à 7h20 sur 8 minutes, donc ils ont eu du temps de parole aussi pour dire.
Avec une difficulté qui est leur représentativité,
oui,
comme c'est un mouvement qui paraît
être essentiel. C'est pour ça qu'on en a pris plusieurs. On est allé d'ailleurs sur des ronds-points, on avait des correspondants qui étaient prépositionnés. Et puis on a fait aussi notre boulot aussi de décryptage, c'est-à-dire de dire voilà, Emmanuel Macron annonce une hausse du SMIC, comment ça va se passer ? Est-ce que c'est du net ? Est-ce que c'est du brut ? Donc on a aussi un rôle de décryptage, mais l'important en tout cas c'est pas de donner une opinion et de dire ce qui est bien ou pas bien, c'est en tout cas de mettre face à face différentes opinions et puis de faire notre boulot derrière en disant est-ce que ce que dit Emmanuel Macron est vrai, décrypté et puis s'appuyer sur des faits, encore une fois des faits, sourcés, dire d'où on parle et voilà, on n'est pas là pour donner une opinion, quelles que soient d'ailleurs nos opinions et nos sensibilités aux uns et aux autres.
Alors François Dufour, qu'est-ce qui alimente la défiance vis-à-vis des journalistes, la connivence avec les politiques ? On se dit bien bien quand même qu'un journaliste politique, pour avoir de l'info, il faut bien qu'il voit à un moment ou à un autre des hommes politiques, des élus, pour avoir des infos, justement. Alors, c'est quand même un peu... Comment vous expliquez cette défiance ?
Oui, c'est impossible d'avoir des infos si on ne parle pas, si on ne parle pas aux gens.
Mais c'est Hubert Boeuf-Méry, le fondateur du Monde, qui disait le journalisme, c'est le contact et la distance, c'est ça ?
C'est exactement ça. Mais ça n'empêche pas de faire son boulot normalement. Je crois que c'est vraiment au fond de chacun, de chaque journaliste, il faut être fort et se dire, on est factuel, on est objectif, on est neutre. Et donc nos opinions, on les laisse au garage.
Mais comme
un acteur qui joue un rôle, il est plus Vincent Lindon, il est Monsieur, il est plus Alain Delon, il est Monsieur Klein. Ben c'est pareil.
Mais le journaliste qui a fait la même école que le politique, qu'il côtoie depuis 30 ans, qui déjeune, je me fais l'avocat du diable un peu, qui déjeune aux mêmes tables, etc. Il y a une connivence. Est-ce que ce risque il existe? Cette critique, elle peut être justifiée de la trop grande proximité.
Si c'est un bon journaliste, non.
Oui, mais ça existe, vous tournez autour de la question, ça existe des journalistes...
Est-ce que des journalistes déjeunent avec des politiques ?
Non, mais ont une connivence trop marquée.
Pour rebondir sur ce que disait François, au-delà de l'objectivité, effectivement, je suis d'accord avec François, il y a une forme d'honnêteté intellectuelle, voilà. Et c'est aussi ça, la mise à distance. C'est aussi pour ça qu'il y a des journalistes.
Ouais.
On va pas se le cacher, effectivement, il y a du off, il y a des
alors
contacts
quoi,
avec les uns et les autres. Off, c'est off the record, c'est-à-dire des propos qui sont tenus hors micro et où un politique va vous donner quelques infos, qui sont pas d'ailleurs censés être en principe reportés à l'antenne.
Ça alimente le soupçon vis-à-vis des journalistes, puisqu'on ne dit pas tout ce qu'on sait, puisqu'on a des politiques qui vous disent ça c'est off, il faut pas donner l'info, il faut pas citer la source. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est pas exactement ce que dit le politique. Le politique il dit ça c'est off.
Il est plus
si tu l'utilises, tu ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit.
On est d'accord.
Tu pourras me citer, mais dans un an, dans deux ans, ou si t'écris un bouquin.
Ou quand je serai mort.
Mais c'est pas moi qui te l'ai dit. Et de toute façon, si quelqu'un dit du off, c'est qu'il a intérêt à dire du off et qu'il faut s'en méfier. Hein.
Mais ça alimente ce soupçon vis-à-vis des journalistes.
Mais normalement non, parce que le journaliste, il est là pour donner des faits. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce mélange entre le journaliste et l'opinionniste. Donc oui, Alain Duhamel, il donne son opinion. Jean-Michel Apathy, il donne son opinion. Alors est-ce qu'ils sont potes de François Bayrou ou d'autres? Mais peu importe, il faut les prendre comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui donnent des opinions, qui sont convaincantes ou pas. Mais c'est pas le métier que Tony et moi on fait. Nous, on vous dit ce qui se passe et puis vous faites votre opinion derrière.
Et parfois, en prenant des risques, on va vous raconter comment sont protégés les journalistes d'RTL et d'ailleurs, parce que malheureusement, de plus en plus, il faut protéger les journalistes qui partent sur le terrain. Et puis alors après, vous connaissez la curiosité, on adore passer d'un thème à l'autre. Une star mondiale de la BD, Babar sur RTL.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et on vous dévoile nos secrets de fabrication sur RTL. Comment l'info est-elle traitée, choisie, hiérarchisée? Pourquoi aussi les journalistes sont devenus des cibles? C'est ce que nous expliquent nos invités François Dufour, qui est rédacteur en chef de Mon Quotidien et Mon Petit Quotidien, et Tony Cousin, rédacteur en chef de la matinale d'RTL depuis 5 ans. Tony, comment ça se passe? On ne sait pas si samedi il y aura encore des manifestations et peut-être des violences sur les Champs-Élysées et dans d'autres villes de France. Comment les journalistes d'RTL se protègent?
Ben, vous avez raison de dire qu'il y a des protections. En fait, samedi, pour être très concret, nos reporters sont partis sur la manif à Paris avec des casques. Mmh. On a acheté des masques. Il y a du sérum physiologique pour enlever les gaz lacrymo dans les yeux. On les a fait pour la première fois travailler en binôme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis seuls. C'est fondamental parce que un journaliste sur le terrain, lors d'une situation de crise, il a besoin d'avoir peut-être le conseil du copain qui est à côté de lui, ou pendant qu'il fait son direct, et il n'a pas des yeux derrière la tête, donc il a besoin d'avoir quelqu'un qui lui dit « Attention, il y a une bouteille en verre qui arrive, une boule de pétanque qui vole, ou j'en sais rien. » Voilà, ils ont fondé également un groupe WhatsApp, ce qui leur permet de manière instantanée de communiquer entre eux.
Est-ce que tu caches le logo RTL de l'équipement ?
Non, le logo n'était pas caché. Alors, il faut dire que c'est plus simple en radio... Enfin, si je... puis dire comme ça, c'est peut-être plus simple de travailler en radio qu'en télé en ce moment, dans la mesure où en radio on peut faire un direct à partir d'un téléphone portable, là où en télé il y a forcément une logistique qui est plus lourde avec la caméra et une équipe plus grande.
Parce que d'un mot, François Dufour, il y a des médias qui doivent se cacher. C'est-à-dire qu'on retire les logos d'une caméra de télévision ou d'une bonnette de micro pour limiter les risques.
Je ne sais pas si vous parlez des gilets jaunes, mais moi j'étais la semaine dernière dans la région de Boko Haram. Et oui, là je peux vous dire, j'ai pas mis un logo GoPress sur mon front.
Ben voilà, ce qu'on devait faire régulièrement dans certaines zones de guerre, on est obligé parfois de le faire aujourd'hui dans des manifs en France. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Les 100 mots du journalisme, c'est le titre de votre livre, François Dufour, publié chez Que sais-je. Tony, bonne matinale demain. La prochaine conf de rédac pour la préparer, c'est quand?
Alors d'habitude, j'y vais pas, mais là c'est 15h15, donc vous me donnez l'occasion d'y aller.
Mais vous êtes debout depuis 1h du matin.
Non, vous faites la sieste à cette heure-là.
Je fais une petite sieste et puis j'y retournerai en fin d'après-midi.
Merci d'être venu.
Merci.